Radio G 101.5 FM. Walking in the midnight sun.
Bonjour, vous écoutez, ça c'est Climat. L'émission des initiatives citoyennes pour un monde plus solidaire et plus écologique. Je suis Mickaël dans Transition et nous sommes ensemble pour une heure. J'accueille aujourd'hui Annie. Une initiative sous cette Villevec, on va voir ça ensemble. Et cette émission, donc, nous sommes aujourd'hui le 7 février, elle sera rediffusée le 21 février. Alors, l'actualité dans Transition en ce moment, c'est quoi? Bon, on a une actualité pas mal active, puisque la dernière fois, dans l'émission, on avait reçu à la fois la compagnie Morpho avec les spectacles donc, qui ont eu lieu, qui étaient vraiment très bien. On avait reçu également la dernière fois Zéro Déchet Montreuil-Junier, qui avait organisé son événement fin janvier. Voilà, 300 personnes qui sont passées dans la journée pour découvrir la Muse, la monnaie locale, le zéro déchet, plein d'initiatives, des conférences sur la permaculture. Nous, on a également fait une conférence. Voilà, un bel événement qui a permis de diffuser et de partager les expériences. Et puis l'actualité, c'est l'extension de la diffusion du guide de main en poche, puisque maintenant le guide de main en poche est également disponible à l'Écho des Bocaux, l'épicerie en vrac du centre-ville de Saumur, et à Quoi de plus naturel, à une épicerie bio à Douai-la-Fontaine. Voilà, et puis on est aussi disponible ailleurs. Récemment aussi, voilà, le Carré Vert et biologique à Chemillé. Voilà, donc le réseau de distribution s'étend. Et puis si vous souhaitez vous aussi diffuser le guide de Main en Poche, n'hésitez pas à vous aller sur le site demainenpoche.fr pour signaler votre intérêt et étendre sa diffusion. Donc aujourd'hui, je suis avec Annie. Bonjour Annie.
Oui, bonjour.
Alors, on s'était déjà croisé par ailleurs, parce qu'Angers est une petite ville et tous les gens qui sont actifs, on se croise régulièrement. Mais je t'ai revu, c'était qu'en décembre, là, je ne sais plus exactement la date, je crois, c'est ça?
Oui, le 12 décembre.
Le 12 décembre, voilà, en transition, on était venu. Alors, on était arrivé un peu tardivement, parce que les obligations faisaient qu'on n'avait pas pu arriver à l'heure, mais à une soirée qui était organisée à Soucel, voilà, une soirée projection autour du film en transition de zéro, et puis ensuite des discussions. Et moi, quand je suis arrivé, c'est vrai que voilà, je vais pas très souvent à Soucel, j'avoue, je ne sais pas trop comment ça vit là-bas, mais en fait, je suis arrivé et il y avait 80 personnes dans cette salle, et franchement, j'ai été impressionné de voir cette mobilisation sur ces questions de transition dans ce territoire, et ça nous a réjouis, et du coup c'est pour ça qu'on t'a invité, parce qu'on s'est dit mais c'est sympa de pouvoir raconter un peu ce qui se passe aussi partout un peu dans le département, et notamment pour cette soirée. Donc peut-être un peu nous expliquer, voilà, d'où est venu, on reviendra tout à l'heure après sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette soirée, mais qu'est-ce qui a amené, comment c'est arrivé à l'organisation de cette soirée du 12 décembre, qui était un peu une soirée de lancement pour votre groupe.
Je vais expliquer un peu la genèse du projet. On est deux habitantes donc de la commune de Soucel, à être voisines et aussi amies. Et on partageait un certain nombre de centres d'intérêt communs autour du développement durable, de la transition écologique, et l'envie de conduire des actions concrètes sur le village. Effectivement, mon amie, elle, très investie sur le plan national, sur des actions plutôt activistes, engagées, militantes, et moi, plutôt sensible à ces questions, mais pas plus que ça engagée. Et toutes les deux, donc, l'envie de faire quelque chose de concret, mais qui permette aux personnes de s'impliquer sur la commune, qui permette aussi d'engager du dialogue, de réaliser du concret, d'échanger des savoirs, des savoir-faire, donc créer une dynamique de convivialité sur nos communes rurales, qui finalement ont le bénéfice de la nature, mais sur le plan social et des solidarités, il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui se font. Il y a quand même des choses qui existent, je ne vais pas dire ça. Mais l'idée, c'était aussi de les intensifier et de se greffer aussi à des actions micro, notamment dans le domaine culturel, qui existent, et leur donner aussi une autre résonance sur les questions de développement durable, de solidarité, de lien social, voilà.
Donc du coup, c'est ça qui est intéressant de se dire, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'attendre d'être très nombreux, d'avoir beaucoup de moyens pour faire des choses. Voilà, là on est deux, et on se dit, voilà, ça nous intéresse, on a envie de faire quelque chose, et pourquoi s'empêcher, allons-y quoi.
C'est intéressant, effectivement, il ne s'agit pas d'être nombreux. Par contre, on n'était pas forcément très ambitieuse. Notre idée, c'était d'aller sur de l'action concrète. Et très très vite, on s'est dit que le thème fédérateur qui pouvait nous rassembler, c'était sans doute l'alimentation. Et donc là, il existe des tas d'initiatives autour de l'alimentation, notamment par le biais des AMAP, des associations pour le soutien de l'agriculture paysanne. Et ce courant de pensée et d'action nous intéressait. Donc on s'est rapproché de consommateurs, de producteurs, d'organisateurs locaux avec qui on a partagé sur les aspects positifs, sur ce qu'il fallait qu'on prenne en compte. Et on s'est dit, on va partir sur cette action, mais on va aussi ouvrir le sujet à d'autres objets qui préoccupent aussi les personnes, qui ne sont pas que l'alimentation, mais c'est aussi le zéro déchet, c'est aussi les déplacements, la mobilité, voilà. Donc on a fait une entrée sur une action concrète, mais en se disant très très vite, on va élargir à d'autres domaines.
Et là, du coup, quand tu dis voilà, les préoccupations des gens sont pas que l'alimentation, ça veut dire que c'est des choses dont vous discutiez dans le cercle, je sais pas, associatif ou sur des événements culturels. Enfin, vous sentiez dans le territoire ou à la sortie des écoles ou je sais pas. Comment est-ce que justement vous sentiez dans le territoire qu'il y avait quelque chose qui bougeait, que les gens, il y avait une attente ou peut-être non, vous avez dit on se lance puis on verra.
Alors sur un des hameaux du village de Soucelles, qui s'appelle La Rochefoulque, il y a toute une dynamique d'habitants qui programme aujourd'hui un petit peu de diffusion culturelle, mais qui travaille aussi sur le zéro déchet, donc la récupération de matériaux pour en faire des décors. Donc on sent qu'il y a vraiment une sensibilisation qui est là, présente, et puis qui s'exprime. Donc après, à la sortie des écoles, malheureusement, c'était auparavant un excellent moyen pour pouvoir rencontrer les gens, notamment le samedi. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'école, donc en tout cas pas le samedi. Donc on a plus de difficultés à partager, à prendre du temps sur un temps où on n'est pas pressé par les horaires, par le travail, voilà. Donc la sortie de l'école, pour nous, ça n'a pas été en tout cas le moyen pour mobiliser des personnes à venir, donc le 12 décembre pour ce film. Mais on a fait des petits pas. Donc depuis l'année dernière, depuis le mois de juillet l'année dernière, on a rencontré donc des producteurs, des consommateurs, des organisateurs, mais on a aussi rencontré le maire à qui on a écrit notre pré-projet et qui nous a dit, moi je peux vous soutenir, je vais en partager, et je vais partager l'idée aussi avec mon conseil municipal. Et on a eu assez vite l'aval donc des élus pour nous mettre à disposition dans un premier temps donc une salle, puisque très vite on a fait savoir aussi qu'on voulait pouvoir faire connaître notre ambition auprès de l'ensemble donc des habitants, pas seulement de la commune de Soucelles, parce que nous avons fusionné depuis quelque temps et aujourd'hui nous sommes passés de 2500 habitants à 5500 puisque on a fusionné avec la commune de Villevêque et aujourd'hui on s'appelle Rives du Loir en Anjou.
Ah, j'avais pas retenu ce nom.
Rives du Loir en Anjou, voilà. 5000 habitants. Donc un des objets aussi, c'est de se servir de cette dynamique pour créer de la convivialité, de la connaissance, de l'interconnaissance avec ces deux communes qui sont traversées par le Loir. Voilà. Pour la petite histoire, donc notre groupe au départ qui était de deux, on l'a grossi en allant chercher des personnes qu'on connaissait qui étaient, on le savait, intéressées par ces questions de transition et de développement durable. Et donc on a constitué un petit éco-groupe. Et là, ensemble, on était donc quatre et on a travaillé donc à inviter, à mobiliser donc les habitants pour le 12.
Donc oui, c'est quand même un... Voilà, vous avez pris votre temps, tu parles de juillet, la soirée était en décembre, donc prendre le temps de ce temps de rencontre, que ce soit les élus, les habitants, des commerçants, des citoyens engagés, pour pouvoir bien préparer cette soirée. Alors du coup, comment vous avez annoncé et comment vous avez fait en sorte que finalement des gens viennent à cette soirée du 12?
Il y avait plusieurs réseaux. Notre première préoccupation, ça a été de se dire, on ne fait pas trop de tirages, on ne tire pas trop de tracts. Il faut utiliser les réseaux sociaux existants. Donc on a fait part de ce projet sur Facebook et on a surtout utilisé nos réseaux personnels. Donc on a trouvé des têtes de réseau qui ont pu, elles, envoyer à leur réseau. Et c'est comme ça que, on a démultiplié nos réseaux de relations et on a affiché dans les deux communes, une cinquantaine d'affiches seulement. Et puis on a tracté un peu dans les espaces où il y avait un peu d'attente, voilà.
Mais du coup, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on parle des réseaux sociaux tout de suite, les gens imaginent Facebook en ligne, donc c'est bien de le faire. Mais oui, c'est aussi des réseaux sociaux, la réalité des liens sociaux, oui, entre les gens,
oui,
et que les gens en parlent dans leur entourage et qu'au fil de l'eau, par le bouche à oreille, l'initiative soit connue.
Oui. Alors on s'est appuyé aussi sur des réseaux associatifs. On était plusieurs, on est plutôt des femmes, on doit le dire aussi, à être engagées ou à pratiquer des activités. Donc là, on a commé auprès des gens avec qui on fait ces activités. Voilà.
Et alors donc, on arrive pour cette soirée du 12 décembre, donc, qui était la première soirée publique d'apparition de votre groupe. Je ne sais même pas d'ailleurs si vous avez un nom véritablement pour ce groupe, puisque vous avez démarré à deux, vous êtes regroupé à quatre ensuite. Enfin, voilà, il n'y avait pas forcément de nom, de marque au début.
Non,
voilà.
On est plutôt un collectif, donc non déclaré, association plutôt de fait pour l'instant, mais je vous expliquerai plus tard vers quoi on va. Et le nom qu'on s'est donné, c'est Rives du Loir en transition.
Très bien.
Voilà.
Et alors cette soirée, alors quel était le programme?
Le programme était simple, donc il y avait la projection du film En Transition 2.0 qui dure à peu près une heure. On n'a pas fait un débat très très long. Ce film présente des initiatives un peu insolites dans l'ensemble des parties du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que les initiatives qui sont présentées, elles sont inspirantes, elles sont attachantes. Donc pour nous, en soi, le film déjà était un formidable levier pour accrocher les gens. Donc il ne s'agissait pas d'en rajouter. Il y avait beaucoup de choses qui étaient dites dans ce film. En tout cas, pour nous, ça a été un bon support. Et très vite, on voyait que dans la salle, ça résonnait. On avait prévu un deuxième temps avec une organisation en quatre ateliers. Un atelier sur le zéro déchet, un autre sur le jardiner au naturel, permaculture, un autre sur les déplacements, la mobilité, et le quatrième sur l'alimentation. Voilà. Donc, un petit débat s'est organisé. Donc, très très vite, chacun a pris sa chaise pour s'organiser en fonction des thématiques qui l'intéressaient dans la salle. Donc, 80 personnes. Ça a été très rapide. Et on s'est retrouvés en grand groupe, en plénière, pendant une dizaine de minutes pour échanger ce qui s'était dit dans chacun des ateliers. Et là, on a proposé aux personnes qui étaient présentes, à ceux qui le souhaitaient, d'organiser un autre temps avec un sous-groupe qui aurait pour mission d'organiser la suite des événements sur ces quatre thématiques. Donc on a donc eu quatre groupes et une vingtaine de personnes qui se sont inscrites volontaires pour prolonger cette expérience et aller plus loin. Donc voilà, cette à la deuxième rencontre qui a eu lieu, il y avait donc encore 40 personnes, le groupe de 20 s'était réétoffé. Et pour chacun des thèmes, les programmes sont différents. Hein. Sur le zéro déchet, il y a là une expérimentation qui va être conduite dans les semaines qui vont venir avec une petite, un groupe d'une quinzaine de personnes pour apprendre à fabriquer ces produits d'hygiène et de nettoyage. Sur le groupe transport, il y a un diagnostic qui est lancé au niveau de l'ensemble des moyens de communication. Intra au sein du village, pour venir au village, mais aussi pour aller travailler sur Angers. L'idée étant de peut-être de pouvoir travailler sur une forme de covoite. Enfin bon, tout ça c'est en réflexion. Le troisième qui travaille sur la permaculture, groupe, a lui réfléchi à 6 ou 7 ateliers dans les 6 mois qui vont venir, hein, entre de la taille de pommiers à la visite de jardins en permaculture aboutie, voilà, à la fabrication de fours solaires. Et le dernier groupe, celui dont je suis pilote, c'est sur une alimentation de proximité avec l'idée de lancer des paniers de légumes, paniers paysans, on l'appelle, bio, à partir de septembre. Aujourd'hui, on a 50 préinscrits.
D'accord. Alors, je voulais qu'on revienne sur toutes ces initiatives après la pause. On va faire une pause musicale et on revient avec toi, Annie, pour voir un peu plus justement comment cette mobilisation prend forme. Tu as commencé à nous l'évoquer et c'est très encourageant.
Yeah.
Vous écoutez Radio G 101.5 FM, c'est Ça c'est Climat. Je suis Mickaël dans Transition et je suis avec Annie de Rive de Loire en Transition. C'est ça ? Rive de Loire, Rive sur Loire, j'ai un doute.
Rive de Loire en Transition.
Rive de Loire, c'est bien ça. On parlait de cette soirée du 12 décembre et c'est vrai que juste après le film, quand il y a eu ces quatre ateliers que tu expliquais thématiques, moi ce que j'ai vu, c'était justement cette effervescence. Enfin, il y avait une vraie participation des personnes qui étaient là. Ils sont pas venus en simple spectateur. Il y avait cette envie d'expression, de partage et puis beaucoup d'idées qui sont venues. Mmh. Enfin, les ateliers étaient vraiment organisé pour justement aussi recueillir les idées des gens qui étaient là, construire avec eux cette initiative et j'ai trouvé ça très riche.
Merci.
Et puis à la fin, tu as oublié d'en parler, mais il y avait le pot convivial qui est quand même un moment aussi intéressant pour justement tisser du lien et se dire on passe un bon moment et on a envie que ça se poursuive.
Voilà. Effectivement, ça fait partie probablement de nos principes, sans qu'on se le soit trop dit. Mais à chaque fois qu'on a qu'on organise un temps fort, une réunion, il y a toujours l'invitation à tous d'amener une chose à boire, quelque chose à grignoter, et voilà, chacun amène, partage. Et c'est non seulement manger de l'alimentation, mais dans l'animation des groupes, c'est aussi ça. C'est on partage l'expression de chacun. Donc on tente effectivement de réguler les prises de parole qui pourraient être plus longues pour certains que d'autres, et de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer. Et lorsque on anime simplement cette démarche de prise de parole, eh bien les gens s'autorisent à s'exprimer, s'autorisent à dire s'il y a une présentation en quelques minutes très synthétique, ben moi je veux bien le faire, moi aussi. Moi j'étais étonnée de voir toutes les compétences, mais agréablement étonnée et surprise qu'on pouvait avoir dans la salle. Mmh. Et donc c'est voilà, il faut qu'on avance en se disant qu'on n'est pas seul, ça on en est persuadé, mais qu'il y a plein de compétences à partager sur le village, quoi.
Voilà, il y a des richesses humaines dans nos quartiers, dans nos villages, et si on arrive à donner l'envie de se mettre ensemble, on peut faire de belles choses.
Oui, tout à fait. C'est comment on peut co-construire ensemble, partager, travailler ensemble, réfléchir. Et en fait, je constate tout simplement que les personnes sont en attente. Mmh. Parce qu'il y a peu d'espace où on peut s'exprimer, co-construire, être entendu. Voilà.
Et alors, donc toi, tu es référente, je ne sais pas comment vous dites, de ce projet autour de l'alimentation. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu plus comment se profile l'avancée de ces travaux là-dessus ?
Alors, comme je le disais en début d'émission, l'alimentation nous semblait être une thématique facile à conduire, concrète, parlante, et qui peut correspondre à un besoin de tous les jours, bien sûr, et donc qui nous semblait plus facilement mobiliser des gens. Donc je me suis effectivement portée candidate et volontaire pour être la référente sur ce groupe-là, sachant que j'ai un grand jardin et que je n'aurais pas forcément besoin des légumes du producteur. Mais ça m'intéressait d'accompagner la démarche pour conduire à terme ce projet. Donc on a d'abord trouvé le producteur de légumes qui s'est associé à nous pour réfléchir à comment ça pouvait se concrétiser, avec quels produits dans un panier, des œufs, pas des œufs, du pain, d'autres choses. Et puis eh bien après c'est quand, quel jour, où. Donc on a rencontré, là aussi, on est un petit groupe de 7 personnes. Et on se répartit les tâches. Donc, 2 sont allés rencontrer le maire pour voir si on pouvait pas avoir un local. Donc, on a aujourd'hui un très joli local qui va nous être mis à disposition dès qu'on lancera les paniers. Il y a trois autres personnes qui ont travaillé sur le règlement, le livret d'accueil. On a un certain nombre de valeurs qu'on veut faire partager aux personnes qui vont venir acheter leur panier. L'idée n'est pas de faire une épicerie. Hein, on va au-delà. L'idée, c'est aussi de faire que le producteur et le consommateur se rapprochent, que chacun se connaisse et se reconnaisse. Le producteur sera là pour amener ses légumes. L'idée, c'est aussi de soutenir l'agriculture paysanne. Donc, on s'engagera probablement sur une année à l'achat de paniers. Aujourd'hui, on est en train de définir un peu toutes ces modalités, hein, ces principes qu'on va se donner dans l'organisation. Et dans notre micro-groupe de 6 personnes, là, on se répartit les tâches. On a lancé un appel à des préinscriptions début janvier jusqu'à la fin janvier. Et nous avons aujourd'hui 50 personnes qui se sont préinscrites pour un panier de légumes à partir de septembre.
Donc ça veut bien dire que ça répond à un besoin. Il y a cette attente, il y a ce besoin, c'est ce que j'allais dire, d'essayer de comprendre, parce qu'on peut avoir des belles idées comme ça, mais tout l'enjeu, c'est de savoir est-ce que finalement c'est utile, ça sert à quelqu'un. Donc là, côté préinscription, on voit bien que si les gens se proposent pour septembre, donc ils anticipent énormément. Et souvent, c'est quand même pas, dans notre société, ça devient de plus en plus difficile, hein, de prendre des engagements comme ça 6 mois à l'avance. Donc là, 50 personnes qui se disent, pour dans 6 mois, je suis intéressé, c'est quand même, moi je trouve, un engagement important et qui est précieux dans notre monde actuel. Mais du coup, quel est le besoin côté du producteur? Puisque le producteur, il était déjà en place, il avait déjà sa façon de fonctionner, donc qu'est-ce que lui il recherche à travers ça?
Je crois qu'il recherche deux choses essentielles. La première, ce qui l'a intéressé, c'est que nous n'étions pas uniquement sur l'approche distribution de paniers. Qu'on était dans quelque chose qui allait au-delà. La transition écologique, ça l'intéresse. C'est quelqu'un qui a eu un autre parcours professionnel et qui, aujourd'hui, s'est réorienté. Et je pense qu'il est sensible aux questions de transition écologique. Il est sensible aussi au fait qu'on puisse construire ensemble un autre modèle économique, un autre modèle aussi, un peu de société. Et donc, en ça, ils sentaient là deux personnes, puisqu'on était deux à l'avoir rencontré au départ, dont le projet l'attirait, quoi. Alors ça, c'était, donc, ils partageaient les mêmes centres d'intérêt que nous. Et la deuxième raison, il a aujourd'hui besoin de sécuriser son modèle économique. Il travaille déjà en vente directe, mais avec des réservations sur Internet. Donc, une semaine, il peut vendre 60 paniers, et puis la semaine d'après, il peut en vendre 20. Et quand on veut stabiliser un emploi et une structure, il faut un peu de sécurité. Donc en ça, le fait que nous on puisse lui proposer un modèle sur une année en lui disant, bah voilà, s'il y a 50 personnes qui prennent des paniers chaque semaine, voilà, ça permet de maintenir un emploi dans l'entreprise. Maintenant, lui, sa capacité aujourd'hui, elle est plutôt de 35 à 40 paniers. Donc on est au-delà sur les préinscriptions, mais on sait aussi que entre le nombre de gens qui se sont préinscrits et la réalité, on aura sans doute des gens qui vont se désister peut-être, partir, être sur d'autres choses. Et puis il y a peut-être des personnes aussi. Alors on va encourager ça aussi, c'est-à-dire que s'engager toutes les semaines, c'est pas toujours facile la première fois. L'année suivante, ce sera plus simple, peut-être. Donc, on va proposer aux personnes de s'organiser peut-être en binôme. Donc, c'est un panier tous les 15 jours. Donc, ça veut dire qu'on en a peut-être 50, mais si on a 50 qui veulent venir tous les 15 jours, ça fait que 25 paniers. Mais je pense pas. Je pense qu'on a quand même une majorité de gens qui seront intéressés par un panier toutes les semaines. Mais pas tous.
Donc ouais, ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'avec ces initiatives, hein, on est bien sur comment on arrive à faire que l'économie locale se perdure, existe, avec des modèles économiques valorisants en fait pour l'emploi, pour le lien social. On voit bien qu'avec ces affaires de transition, hein, on n'est pas dans simplement les bonnes âmes, on est sympa avec la nature, etc. Non, on est dans sur l'humain, sur le concret, sur développer la vie dans nos villages, le lien social, l'économie, et on le redit pas assez parce que, enfin, oui. Je trouve qu'on le dit jamais assez. On a du mal peut-être à suffisamment faire valoir cette ouais. approche qui économique qui est quand même au centre un peu de beaucoup des préoccupations ouais. à la télé, etc.
Ah ouais, non, tout à fait. Et effectivement, dans les questions qui nous sont posées par les futurs consommateurs, c'est de dire ah bah oui, mais quand je vais partir en vacances, comment je vais faire? Ah bah oui, mais si je suis malade et tout. Et donc là, on encourage tout de suite la solidarité en disant, mais vous avez peut-être un ami, un voisin qui va pouvoir venir vous acheter votre panier pendant les 15 jours. Et puis voilà, c'est impulser, redonner de la solidarité, quoi, de voisinage, d'amis, et tout ça aussi pour maintenir et sauvegarder les paysans. On en a besoin sur nos espaces ruraux, si on veut pas, voilà, que ce soit de la friche ou voilà, et qu'il y ait une activité. Et c'est aussi intéressant pour les parents comme les grands-parents de pouvoir aussi venir redécouvrir les activités traditionnelles, hein, voilà, sur nos terres.
Alors du coup, Rive de Loire en transition, voilà, vous avez démarré à deux, puis vous avez rencontré des gens, lancé cette soirée de lancement. Là, la dernière fois, une quarantaine de personnes à la deuxième réunion, les groupes de travail. Comment vous voyez la suite alors ?
Alors, Rive de Loire en transition, aujourd'hui, c'est un collectif qui n'est pas structuré en association. Et demain, on sait que pour un certain nombre de raisons, hein, de reconnaissance, de lisibilité, d'assurance, de besoins financiers, on aura besoin de se structurer. Donc on a réfléchi, donc on s'est réunis en début de semaine, on a un petit groupe a réfléchi à une structuration, donc soit la structuration très pyramidale avec un bureau, un conseil d'administration, une assemblée générale, donc et en fait le pouvoir de décision il est partagé avec 3-4 personnes qui font partie du bureau. On n'a pas fait ce choix-là. On l'a partagé avec en début de semaine avec les 25 personnes qui étaient présentes à la réunion pour voir si le modèle, un autre modèle, pouvait les inspirer, un modèle plus collégial, en cercle, où chaque commission a un représentant. Il y a des référents qui ont des responsabilités, mais le pouvoir est partagé, le pouvoir est plus collectif. On va expérimenter. Probablement que on va rencontrer des écueils, mais dans notre démarche de faire en sorte que les personnes elles aient leur mot à dire, elles soient entendues, elles aient du pouvoir aussi sur un peu l'activité dans laquelle elles sont engagées, on souhaite être sur un modèle plus circulaire, voilà, qui favorise l'échange, la responsabilité malgré tout.
Alors, si vous souhaitez retrouver du pouvoir d'agir et que vous habitez à Soussal et Villevêque, comment fait-on pour vous joindre, Annie ? Est-ce qu'il y a un contact ?
Alors, oui, il y a une page Facebook, Rive du Loire en transition.
Voilà.
Et sinon, on a une adresse email, rive du Loire en transition, @gmail.com.
Très bien, donc vous allez sur internet Rive du Loire en transition et vous trouvez la page Facebook sur laquelle vous contactez, et puis sinon au pire vous nous contactez en transition et puis on fera le lien. Écoute, Annie, merci. Je sais pas si tu as un message à faire passer. En tout cas, on vous remercie aussi pour votre accueil, puisque le 12 vous nous avez donné l'opportunité de présenter le guide de main en poche, voilà, qui nous semble un outil, nous, au service justement des groupes comme comme ça qui initient des démarches comme les vôtres et des citoyens, citoyennes qui souhaitent s'engager à titre individuel ou collectif. Voilà, donc c'était bien sympathique.
Merci Michael. Et ben, j'invite les personnes qui le souhaitent à venir nous rejoindre. Et puis, en tout cas, s'il y a de l'éloignement, n'hésitez pas à vous engager sur des actions locales concrètes. En tout cas, nous, on est prêts à venir témoigner de nos expériences auprès de futurs porteurs de projets. Merci.
Bien.
Au revoir.
Au revoir. Eh bien, on écoute une petite pause musicale avec Pressure to Party de Julia Jacqueline. Et ensuite, vous écouterez un reportage puisque j'étais à l'Assemblée Générale de la Muse, la monnaie locale, au mois de janvier.
FM.
Alors je suis l'Assemblée Générale de l'association Agir pour la Transition qui porte la monnaie locale, la Muse vient de s'achever et je suis avec d'imminents membres de cette association. Alors qu'est-ce que c'est déjà la Muse, une monnaie locale? Peut-être tous nos auditeurs, auditrices ne connaissent pas.
Bon, eh bien c'est une monnaie qui dans une zone géographique donnée peut être utilisé pour les échanges locaux. Pour nous, dans le Maine-et-Loire, elle s'appelle la Muse, la monnaie à usage solidaire et écologique. Et elle permet, dans des magasins donnés, enfin ce que nous appelons nos prestataires, au lieu de payer en euros, bah de payer dans cette monnaie locale qui s'appelle la Muse. Cette monnaie, comment peut-on l'obtenir? Eh bien, auprès de l'association Agir pour la Transition, nous échangeons des euros en muse, un euro pour une muse, Et au lieu de payer en euros dans un magasin, bien nous payons en MUS si c'est un prestataire.
Donc l'objectif, hein, c'est vraiment de promouvoir l'économie locale. C'est un peu ça de ce que j'ai compris.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs objectifs. Hein. C'est vrai que le premier objectif, si vous voulez, c'est de s'insurger contre ce qui est fait avec l'argent par les banques, par les systèmes de financiarisation de l'économie, et de se réapproprier l'argent comme un simple moyen de soutenir les échanges locaux en l'occurrence. Et c'est une création qui permet aussi d'échapper à l'utilisation de la monnaie pour l'actionnariat, pour la spéculation. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui est uniquement utilisée pour l'échange, comme c'était à l'origine la fonction des monnaies. Donc l'échange, évidemment, pour nous, local. Et la nôtre s'appelle la MUS, la monnaie à usage solidaire économique et écologique. Pourquoi solidaire? Parce que justement, toutes ces entreprises qui, dans notre département, ont un objectif éthique et écologique, eh bien, nous allons les soutenir en les faisant travailler. Et écologique, parce que justement, ce sont justement en général des magasins bio ou des kinésithérapeutes ou des épiciers ou des boulangers, mais des gens qui ont un souci de la qualité au niveau de la production, la qualité du lien, etc., etc.
Voilà, donc du coup, on fait un choix important en dépensant cet argent, cette muse. Du coup, on fait le choix de soutenir une certaine production, certains prestataires locaux. Et du coup, il y a combien de prestataires aujourd'hui sur le département environ, vous savez?
Un peu plus de 200, 250.
D'accord, prestataires. Donc 250 prestataires dans le département au sein desquels on peut dépenser les muses. Alors là, c'était l'Assemblée Générale. Comment va l'association? Comment ça fonctionne? C'est quoi un peu l'actualité?
Alors, ça dépend un petit peu des groupes locaux, puisque le département du Maine-et-Loire est fait de plusieurs groupes locaux, groupe d'Angers, groupe de Segré, de Baugé, de Saumur, etc. Donc, en général, on a quand même une évolution, mais le côté négatif, c'est peut-être que nous n'avons pas assez d'expansion, c'est-à-dire de masse monétaire, de muse qui circule. Par contre, les gens qui prennent la muse, prennent des sommes plus importantes. Dans certaines régions, Segréen par exemple, on a pas mal de prestataires, mais il nous manque un peu de
utilisateurs.
Et inversement, parfois, on a... Non, ça, on n'a pas, je crois, trop d'utilisateurs pour la... C'est plutôt dans l'autre sens, effectivement.
Voilà, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de développer ce type de monnaie locale, parce qu'il faut trouver en effet des prestataires où les gens vont pouvoir dépenser les muses pour pouvoir en prendre. Mais en même temps, une fois qu'on a trouvé des prestataires, il faut aussi qu'il y ait des gens qui prennent des muses. Voilà, donc c'est un peu l'histoire de l'œuf et la poule, et donc il faut réussir à être sur les deux tableaux. Et donc, du coup, toi, Guy, justement, du groupe local de Segré, vous avez démarré fort sur les prestataires. Raconte-nous un peu.
Oui, alors nous, on a démarré sur les prestataires il y a à peine un an, puisqu'en fait, c'était l'Assemblée Générale des Commerçants avait lieu fin janvier, et on avait demandé à avoir 5 minutes pour exposer la muse dans le cadre de leur Assemblée Générale. Et en fait, les choses se sont passées après autour du pot de l'amitié, et puis les contacts dans les jours qui ont suivi, quoi. Mais nous, notre idée en tant que consommateurs, c'était de... Dans Segréen, on a peur de voir la ville se vider de ses commerçants, quoi. On se dit, on veut pas vivre dans un désert demain. Et c'est ce qui nous a incité, nous, consommateurs, à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre notre part dans le développement, enfin, dans le soutien de l'économie locale. Et donc, c'est ça qui nous a motivés. Alors, on avait peur de pas trouver les prestataires, et en fait, les prestataires, on n'a pas eu de mal à les trouver. En l'espace de 2 mois, on avait 25 prestataires, quoi, qui ont adhéré. Mais notre difficulté, c'est maintenant de sensibiliser, c'était notre objectif premier, c'est de sensibiliser les consommateurs à l'achat local et à l'achat de proximité. Et en fait, on était tellement focalisé sur les prestataires qu'on a un petit peu oublié les consommateurs. Et en fait, on s'est rendu compte que les consommateurs, il faut qu'ils soient un petit peu militants pour faire ça. Parce qu'il faut qu'ils aillent, chercher de l'argent. Il faut qu'ils aillent échanger des euros contre des muses pour pouvoir faire leurs courses. Et donc, ça, c'est quand même un frein. Et là, à l'Assemblée Générale, aujourd'hui, on a imaginé qu'on allait pouvoir faire des abonnements mensuels, par exemple, des gens qui disent, ben voilà, moi, j'ai besoin de 50 muses ou de 100 muses par mois, et je m'abonne pour 100 muses par mois. Alors, qu'on pourrait leur envoyer directement. Et en fait, je pense que c'est ça. Il faut amorcer la pompe pour qu'il y ait suffisamment de gens qui se disent, ben, finalement, les muses, qu'est-ce que j'en fais ? Et que ça réponde à l'objectif qu'on s'est fixé en premier, qui était l'achat de proximité. Puisqu'en fait, naturellement, les prestataires, on va pas chercher les grands magasins pour être prestataires. On cherche les petits commerçants et les producteurs qui font de la vente directe, quoi.
Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est en effet un engagement. Hein, pour les consommateurs de faire ça, on parle de consommation, et donc du coup c'est déjà un engagement de se lancer là-dedans, et donc du coup c'est vrai que si on peut simplifier l'engagement, c'est encore mieux. Donc comme tu évoques, c'est vrai que voilà, je m'abonne, j'ai le virement mensuel et puis je reçois à la maison les muses, et une fois qu'elles sont là, bah je les utilise, parce que peut-être que je suis motivé, mais c'est vrai que j'en ai pas sur moi. Et puis comme tu racontais tout à l'heure, le comptoir là où je peux aller échanger les muses, il est pas ouvert, et puis j'y vais plus, et puis le temps passe, et puis pendant ce temps-là, bah j'ai plus de muses, quoi.
Oui, il y a une enquête, par exemple, qui a été faite par la stagiaire de la Muse, actuellement, et qui s'intéressait à ça. Et en fait, ce qui est remonté, c'était la difficulté, justement, d'aller s'approvisionner en Muse. Et moi, je l'ai rencontré avec des gens sur Segré, qui disaient, le matin, quand je mène les enfants à l'école, les comptoirs sont pas ouverts. Puisque ça ouvre plus tard. Nous, on a la chance d'avoir un nouveau comptoir qui est l'Office de Tourisme, par exemple. Mais l'Office de Tourisme, il n'est pas encore ouvert. Et puis, quand il revient du boulot, il est fermé. Et donc, c'est un frein, c'est finalement, pour s'en procurer.
On n'a pas ce problème sur Angers, parce que dans une grande ville, on a suffisamment de comptoirs, je pense. Oui, non, bon. Enfin, j'ai l'impression qu'on a plus de choix.
Moins.
Je dirais. Ouais. Et le deuxième objectif, l'objectif, c'est d'acheter local, hein, et de favoriser donc l'économie locale. Mais il y a un autre objectif à plus long terme, c'est-à-dire que, qui sait, si un jour notre monnaie s'effondrait, l'euro, hein. Bon, on est un peu un laboratoire d'expérimentation, en quelque sorte. C'est-à-dire que, ça s'est déjà fait. Après la crise de 29, il y a des monnaies locales qui se sont créées. Quand la monnaie officielle s'effondre, il faut bien que le commerce tout continue. Donc se crée ou se sont créées des monnaies locales. Donc on se conçoit comme un petit laboratoire d'expérimentation sur ce qu'on ferait au cas où la nôtre s'effondrerait. Et puis moi je me souviens qu'après la crise de 2007, là, il a été évoqué dans les médias de séparer la gestion des comptes courants personnels des comptes des entreprises et des comptes de spéculation et d'actionnariat, etc. Et finalement, on ne l'a pas fait, ce qui fait que s'il y a une nouvelle crise, on sera entraîné. Hein. Donc, il y a des penseurs. Hein. Nous, on a un ami, Monsieur Deroudeur, qui est aussi un homme qui écrit des livres et qui réfléchit à la place de la monnaie. Eh bien, il y a une utopie dans le sens positif du terme, de l'utopie, qui est la monnaie de bien commun. C'est la possibilité qu'auraient, par exemple, les collectivités de créer une monnaie, mais qui ne serait pas du tout assujettie à la spéculation, ou qui serait uniquement créée pour le bien commun. C'est-à-dire que, selon les besoins au niveau de l'emploi, ça, le budget fonctionnerait en fonction de finalement des besoins de la communauté. Et ça paraît peut-être utopique, mais c'est assez intéressant à étudier.
en fait.
Voilà, donc l'association, c'est un peu aussi un agitateur d'idées. C'est-à-dire qu'on démarre par acheter sa baguette avec des muses, et puis on termine à refaire tout le système financier mondial. Donc ça, c'est intéressant quand même. Et du coup...
Pas le refaire, mais à créer quelque chose à côté, parce qu'on ne va jamais défaire ce qui existe là. Ouais. Mais c'est créer quelque chose pour le bien commun, c'est-à-dire pour le bien de tous, l'éducation, je ne sais pas, l'eau, l'électricité, les choses de base. Ouais. Et ça, c'est important. Ouais. Voilà.
Et du coup, on ne le fait pas tout seul, puisque... du coup, là, le groupe de Segret, vous avez donc initié un partenariat avec l'Office de tourisme. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi.
Oui, alors ça, moi, ça m'a étonné en premier parce que je suis allé voir la directrice de l'Office de tourisme qui n'avait jamais entendu parler de monnaie locale et elle s'est bougrement intéressée à ça et elle a dit, mais en fait, on poursuit le même objectif qui est la promotion de l'activité locale. Alors, ça lui a parlé complètement et elle a dit, mais il faut qu'on fasse un partenariat. Et donc, c'était sujet à grosses discussions parce que il fallait que ses employeurs, si on veut, en quelque sorte, la collectivité locale, accepte ça ou en discute au moins. Et donc, elle nous a aidé on a travaillé ensemble pour mettre en place une convention qui a été signée la semaine dernière, par exemple, et à notre presque étonnement, quoi. On s'est dit, mais en fait, c'est vraiment, il y a des gens qui sont très très loin de la monnaie locale, qui c'est pas du tout leur truc, mais ils sentent qu'il y a quelque chose derrière qui est super intéressant à promouvoir, quoi.
Bon, en tout cas, c'est très encourageant tout ça. Bah, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Voilà, peut-être parler du projet de Festimus quand même avant de nous quitter, qui est un événement important pour vous.
Oui, bah, chaque année, au mois de mai, on organise une fête qui s'appelle Festimus, qui permet entre autres de procéder à ce qu'on appelle la fonte, c'est-à-dire c'est ce principe qui fait qu'une monnaie, si elle n'est pas utilisée, va perdre de sa valeur. Pourquoi ? Ben, l'idée, c'est de la faire circuler. Parce que la monnaie, c'est pas fait pour être thésaurisée, être utilisée pour la spéculation, c'est fait pour circuler et, on l'a déjà dit, faire fonctionner le commerce local. Donc, au moment de Festimus, si on a des euros qui n'ont pas été utilisés...
Muses,
oui, là, c'est la mauvaise habitude. Donc, des muses qui n'ont pas été utilisées, elles vont perdre 2% de leur valeur, ce qui fait que il faudra s'acquitter d'une petite somme et mettre son nouveau timbre de validation sur le billet. Mais, et sinon, comme c'est un rassemblement de tous nos prestataires qui viennent, c'est un dimanche toujours, et qui viennent présenter leurs produits, que ce soit à se boire, à manger ou autre, et se faire connaître. Donc c'est une grande fête qui permet de procéder à la fonte et puis de se connaître les uns les autres et puis de créer surtout une énergie. Cette année, ça va peut-être être sur le terrain d'Emmaüs parce qu'on est en partenariat avec Emmaüs en train de réfléchir à une possibilité de travailler ensemble.
Voilà, super. Et bien on annoncera ça quand la date sera connue. On vous tiendra au courant. Bah écoutez, merci beaucoup. Au revoir.
Merci.
size way too small, man.
I need to find some peace. She keeps on touching me, and everyone looks at me, and everyone talks. Now I need to concentrate. She keeps on touching me, and everyone looks at me.
Vous écoutez Ça c'est Climat, l'émission des initiatives citoyennes pour un monde plus solidaire et plus écologique. Je suis Mickaël dans Transition. On arrive quasiment au bout de l'émission, c'est l'heure de l'agenda. L'agenda, bah, ça démarre tout à l'heure à 18h30 pour le rassemblement mensuel de Nous voulons des coquelicots pour l'interdiction des pesticides. À Angers, c'est à 18h30, place du ralliement comme habituellement. Mais vous pouvez retrouver sur le site nousvoulonsdescoquelicots.org tous les rassemblements en France et donc aux environs. Il y a Saint-James, Loire-Authion, Chaux-de-Fonds-sur-Layon. Et si vous êtes un peu plus loin encore, vous retrouverez toutes les heures et lieux de rassemblement sur ce site. La pétition est toujours signable en ligne sur nousvoulonsdescoquelicots.org. Plus d'un million de signataires déjà revendiqués. Ensuite, eh bien, demain samedi à 15h à Meignet-sous-Douai, une présentation de l'école Nature Essence, qui est un projet de l'association Instruire, Développer, Éduquer Autrement, pour la création d'une école alternative tournée vers l'écologie en proposant des méthodes innovantes respectant le rythme de chaque enfant. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bien, c'est à Meignet-sous-Douai. Vous retrouverez tous les détails de ces éléments de l'agenda sur alter49.org. Enfin, mardi 11 février, une réunion publique au Carnet, Place Ney à Angers, pour la mise en place d'un composteur partagé. Donc on recherche eh bien, des personnes intéressées pour utiliser ce composteur. Si vous habitez dans le quartier Ney-Saint-Serge et que vous ne savez pas quoi faire de vos déchets verts, eh bien rendez-vous mardi 11 février, 18h30, au Carnet. Et puis à 20h ce même mardi 11 février, il y a une projection débat Un autre chemin, les pesticides, faut-il en avoir peur, à Loire-Authion, à Cornet, organisé par le CEVA 49, le collectif environnement Val-Authion. Au revoir.
Radio G 101.5 FM.
Day and night, I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain what I need for keeps, the silly game we play. Now look at this, madness the magnet keeps attracting me. I try to run, but see I'm not that fast.